Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
LGSN.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
Le directeur de la santé publique du Québec, Dr. Horacio Arruda, était en entrevue ce matin à Cube Radio avec mon collègue Pierre Nantel. Et il a dit, je le cite, « Avec ce que je vois actuellement, la balance est en train de pencher vers une action. » En parlant, bien sûr, de son intention de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Et on a pensé en parler avec le directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, Jean-Claude Tardif. Bonjour, Monsieur Tardif.
Bonjour.
Alors, selon vous, M. Tardif, est-ce que le gouvernement devrait rendre sa recommandation de porter le masque obligatoire?
Je crois que oui. Il y a des données maintenant qui existent, qui n'existaient pas au début de la crise. Au début, on pensait surtout que les mains étaient le vecteur le plus important de transmission. Et les premières données au tout début de la crise de COVID-19 suggérait que c'était pas transféré dans l'air. Et maintenant, il y a des données qui sont pas définitives, mais il y a des données qui suggèrent fortement qu'il pourrait avoir une transmission aérienne, là, soit par gouttelette ou par aérosol. Alors ça change beaucoup la situation. Alors à mon avis, quand on regarde la situation qui évolue entre autres aux États-Unis, où la situation est en train de devenir hors contrôle dans plusieurs points chauds aux États-Unis, d'une part, puis d'autre part, on voit qu'il y a certains pays qui ont réussi à juguler la crise, comme en Chine, entre autres, où ils ont quand même rapidement là, implanté l'utilisation des masques. À mon avis, je suis en faveur de cette approche-là, parce que je crains que les gens déjà semblent penser que la crise est derrière nous, et que la situation est sous contrôle, qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, moi, je suis en faveur de cette décision.
Et parlant de la deuxième vague, justement, est-ce que vous avez l'impression que cette deuxième vague-là, qu'on appréhende tous, s'en vient plus rapidement que prévu?
J'ai pas de preuve de ça pour ce qui est du Québec. C'est extrêmement impressionnant ce qui survient aux États-Unis actuellement, là. C'est un système de santé quand même qui a une capacité assez impressionnante et il y a plusieurs régions maintenant où il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont sursaturés, Miami, Houston entre autres, ça grandit dans plusieurs autres points chauds, Los Angeles en Californie, Alabama et tout ça. Alors je pense que il y a des raisons pour lesquelles c'est survenu là-bas. C'est pas une bonne nouvelle pour le Canada, ça. Que ça continue d'incuber et de proliférer là-bas. Je suis pas sûr que nos frontières vont être fermées pour un autre 5 ans, là. Alors, c'est pas une bonne nouvelle. Et oui, je pense qu'il va y avoir une prochaine vague au Québec. Ça me paraît hautement probable. La date, c'est ça la question qui est plus difficile. Il y a personne qui a une boule de cristal. Il y a beaucoup de données qui suggèrent qu'elle pourrait arriver à l'automne, cette deuxième vague-là. Ça me paraît plus probable, mais il est pas impossible qu'elle survienne plus tôt.
Mm-hmm. Notamment si, parce que vous parlez des frontières, est-ce que le fait d'ouvrir les frontières avec les États-Unis le 21 juillet, si c'est maintenu, on verra d'ici ce temps-là, est-ce que ça peut pas justement accélérer la deuxième vague?
Sans aucun doute. Puis évidemment, je suis pas responsable gouvernemental. Il y aura des décisions extrêmement sérieuses qui doivent être prises. Mais il n'y a pas de doute que la réouverture de la frontière canado-américaine dans un contexte où la situation de la COVID-19 est extrêmement inquiétante aux États-Unis, présente un risque pour le Canada.
Et selon vous, Dr. Tardif, est-ce que Le fait que, par exemple, je voyais dans la ville de Mercier où, bon, il y a eu des cas, des éclosions, et on a finalement amené à une clinique de dépistage, une clinique mobile de dépistage. Est-ce que ce serait pas une avenue intéressante d'offrir plus de dépistage parce qu'on n'a jamais finalement atteint le nombre de dépistages? Est-ce qu'on devrait, si surtout, par exemple, on vient de la région Montréal métropolitaine, si on part en vacances, est-ce qu'on ne devrait pas automatiquement se faire tester?
Alors, avoir davantage de dépistage, c'est un dans l'espèce de boîte à outils pour tenter de réduire au maximum les complications de l'évolution défavorable de la COVID-19. Le dépistage à haut niveau, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Alors, vous avez raison, tout ce qui va nous amener à davantage de dépistage, vous avez mentionné les cliniques mobiles, c'est une avenue, mais globalement, augmenter la capacité à faire du dépistage avec des résultats rapides dans les régions où sont les gens, c'est clairement quelque chose qui doit être fait. Et je pense qu'on doit même augmenter notre capacité de dépistage pour se préparer encore plus qu'au niveau qui est prévu par le gouvernement. Mm-hmm. Avant qu'il y ait la prochaine vague.
Oui, exact. Mais pourquoi on n'est pas capable d'augmenter la fréquence et le nombre de dépistages? Ça semble être très compliqué.
Oui, ben, je pense que ça va être faisable éventuellement. Vous savez, au début de la crise, je veux pas être trop technique, là, mais il manquait beaucoup de matériel, pas juste des écouvillons pour faire des tests, mais il manquait des matériels de base pour produire ces tests-là. Et par exemple, le laboratoire de santé publique du Québec faisait face, le LSPQ faisait face là à des pénuries importantes pour faire ces tests-là. Bon, parce qu'on était pris un peu de court quant à l'envergure de la crise. Là, je pense, vous savez, à un moment donné, il manquait de respirateurs. Il y a des gens très ingénieux qui ont réussi également à développer des nouvelles façons de faire. Donc là, je pense que on va être capable d'augmenter. Maintenant que les pénuries de plusieurs de du matériel de base est derrière nous, je pense qu'on va être capable d'augmenter encore plus notre capacité de dépistage un peu partout, dont le Québec. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a la capacité de le faire et on doit le faire, à mon avis.
Mm-hmm. Mais excusez-moi là, mais c'est parce que me semble que ça fait longtemps qu'on entend ça, puis je sens pas d'augmentation. Et ici, partout dans le monde, on augmente les tests de dépistage et que la deuxième vague arrive ici. Est-ce qu'encore une fois le Québec va pas être pénalisé parce que les autres se seront préparés et pas nous encore une fois?
Ben, je pense qu'on doit être préparé. Moi, j'ai confiance aux gens de la santé publique, dont le laboratoire de santé publique, et des gens de grande qualité là. Puis vous avez raison. Je pense qu'il faut être prêt. On a beaucoup appris de la première vague. Et moi, j'ai peu de doutes qu'on a la capacité d'être prêt pour cette deuxième vague-là. Vous avez raison qu'on parle depuis un certain temps là, d'atteindre certaines cibles et qu'elles n'ont pas été tout à fait atteintes. À mon avis, il faut même augmenter ces cibles-là pour bien faire face à la prochaine vague.
Et au niveau de l'obligation du port du masque, est-ce que selon vous, on devrait aussi le rendre obligatoire là, dans les milieux de travail? Parce que bon, on parle des commerces, des lieux publics fermés, mais si on imagine des tours à bureaux, des choses comme ça, est-ce qu'on doit élargir cette obligation-là même dans ces milieux-là?
Ben, moi, je vais vous parler juste sur une base scientifique. Il y a évidemment la réalité après ça, puis la santé publique, puis la réalité des travailleurs, des compagnies, tout ça, mais mon niveau d'inquiétude face à l'évolution au cours des prochains mois me suggère que il faut garder les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures, la palette de mesures qu'on a mis en place pour tenter de freiner la progression. Et le masque, maintenant qu'on comprend la transmission aérienne du virus, qui est fort probable, je pense que le masque est un outil extrêmement utile. Et oui, moi, dans les milieux fermés, il faudra voir ce qui est possible de faire, puisque la tolérabilité sociale à plus long terme de ça. Mais à mon avis, à tout le moins pour le reste de l'année, il serait désirable d'étendre les politiques de port de masque au milieu de travail. Je comprends bien que ça va faire des malheureux, des gens qui pensent que c'est exagéré. Il faudra voir encore une fois ce qui est possible de faire, la tolérabilité de ça pour toute la société. Mais au niveau médical, scientifique, moi, je verrais ça comme une mesure tout à fait de protection, tout à fait désirable.
Et M. Tardif, vous avez déjà parlé de la colchicine, qui est un médicament efficace pour adoucir supposément les complications liées à la COVID. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est rendu où exactement? Et vous en êtes où aussi au niveau des recherches?
Oui, avec plaisir. Ben, on a beaucoup d'espoir dans cette approche-là parce que, vous savez, les gens qui développent les complications de la COVID, là, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire, intubation, hospitalisation, décès, on croit bien qu'une bonne partie de ces complications-là, ou en fait l'ensemble de ces complications-là, qui sont pas nécessairement dues au fait qu'il y a plus de virus dans le poumon, mais c'est bien votre propre système immunitaire, vos propres globules blancs qui se mettent à attaquer vos organes, dont les poumons. Alors, prévenir cette réaction immunitaire inflammatoire, on pense que ça va prévenir les complications. C'est le but de l'étude avec la colchicine qu'on appelle l'étude Colcorona. On a eu une bonne nouvelle il y a 2 semaines, où le comité indépendant là, qui surveille notre étude, qui est un comité international très prestigieux, nous a dit, on a passé la première étape là, qui est de dire l'étude n'est pas inutile, c'est-à-dire on a passé le test de la futilité, ce qui nous fait dire qu'il y a fort probablement un bénéfice du médicament. Ils nous ont demandé de se rendre à la prochaine étape, de compléter le recrutement d'un autre 1300 patients pour terminer la cohorte là, qu'on a besoin pour refaire l'analyse. On espère terminer ça dans le courant de l'été et on espère pouvoir, avant la fin là, de l'été 2020, vous donner des résultats positifs. Mais je les connais pas plus que vous, mais on est très optimistes. Et si un médicament aussi peu dispendieux que la colchicine, qui ne nécessite pas d'injection, qui est peu coûteux pour la société, pouvait prévenir les complications, ça serait... En anglais, on dit un game changer, là. Ça changerait la donne beaucoup pour la société en attendant un éventuel vaccin.
Et avant de conclure, justement, sur le vaccin, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que on parle encore d'une autre grosse année avant d'aboutir à un vaccin?
Bon, alors, normalement, c'est un développement accéléré. Vous avez raison. Normalement, 2, 3, 4, 5 ans, ce n'est pas rare, le développement de vaccins. Il y a un effort colossal, scientifique et financier. Il y a un nombre incroyable de vaccins en développement. Il y en a quelques-uns qui sont devant les autres, qui paraissent prometteurs. Maintenant, il y a des gens, entre autres aux États-Unis, qui nous disent que peut-être on aura un vaccin avant la fin de l'année. C'est pas impossible, c'est étonnant, mais c'est pas impossible. Quand j'entends Dr. Fauci, qui est le directeur de l'Institut des infections aux États-Unis dire ça, c'est un homme tout à fait crédible. Donc, s'il le dit, ça a du poids. Maintenant, je veux pas finir trop sur une mauvaise note, mais je voudrais pas non plus que les gens pensent que nécessairement, c'est la solution à tout. Je m'explique. Il n'y a jamais eu un vaccin pour un coronavirus comme le COVID, là. Il n'y a jamais eu un vaccin que le coronavirus qui a fonctionné, de un. Deuxièmement, il n'est pas certain que l'immunité qui va être offerte par un vaccin comme ça va vous protéger à vie. Là. On parle pas d'un vaccin comme contre la rougeole ou la varicelle. Là. Alors, il est possible que l'immunité soit temporaire et il est possible que l'immunité soit seulement partielle. Si on prend le vaccin contre la grippe, c'est pas un vaccin qui vous protège entièrement. Alors, je pense que ça serait une étape dans la bonne direction, mais je le dis pour pas que les gens pensent que ben c'est résolu, les scientifiques vont nous dire qu'un vaccin, j'ai pas besoin de porter de masque, c'est derrière nous, la vie est belle. Je suis inquiet, je pense un peu comme Dr. Arruda, quand je vois là, des images sur des plages ou dans des bars. C'est en partie pour ça que la situation est complètement hors contrôle aux États-Unis. Et je pense qu'il faudrait pas détruire tous les efforts des Québécois pendant 3 mois en pensant faussement que la crise est passée et résolue.
Ben c'est un juste rappel. Merci beaucoup. Donc d'ici ce temps-là, on va porter nos masques parce que de toute évidence, c'est pas pour demain la veille qu'on aura un vaccin. Merci infiniment, Monsieur Tardif. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. À la prochaine, Monsieur Tardif.
Merci.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.